Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter le groupe?
Alors, moi je suis... Alors, moi je suis Vito, mon prénom c'est Victor de Magoyon. Je suis dans le groupe depuis 2014. Après, si tu veux, tu veux que je t'explique un peu le début du groupe ou à partir du moment où je suis arrivé?
Non, bah, ce que tu as vécu toi.
Alors, moi, ce que j'ai vécu, c'est que le groupe, en fait, avant 2014, était en revirement de line-up parce que différence sur les musicaux, sur l'orientation du groupe.
Voilà, et c'est surtout le départ du groupe. Enfin,
oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu le départ. Du guitariste et du bassiste qui était donc le bassiste qui était le cofondateur de Magoyon qui date de 2007 avec Julien donc voilà, et il y a eu ce départ pour divergence musicale et donc voilà, il était temps de caster nouveau bassiste, nouveau guitariste et tout ça. Et donc c'est là où je fais mon apparition en 2014 où j'intègre Magoyon voilà en tant que guitariste lead. Et après il en découle le premier EP qu'on a sorti ensemble, donc Z, le deuxième EP ZZ, c'est pas très original mais voilà, et donc voilà maintenant cette année Creepshow, le dernier album qui est un peu vraiment l'aboutissement du travail qu'on a construit, enfin du style et du travail qu'on a construit ensemble.
D'accord, c'est Magoyon 2.0. Quoi.
Exactement.
Et toi, ton parcours personnel en tant que guitariste, en tant que musicien, tes influences, comment t'es venu à l'instrument?
D'accord. Bah alors moi, tout simplement, je, comme beaucoup de guitaristes, je me suis réellement mis à la guitare à l'âge de 12-13 ans, donc au début de l'adolescence. J'avais fait un petit peu quelques cours de classique quand j'étais plus jeune en primaire, mais sans grand intérêt. Et sauf que quand j'ai repris la guitare à 12-13 ans, mes bases de classique m'ont énormément aidé pour progresser très rapidement. Ce qui fait que mon frère étant guitariste aussi, on a vite créé un groupe familial puisque ma cousine était au chant, mon oncle était à la batterie et on a mis d'enfance à la basse et on a commencé à faire le Fallen Fest. Je pense que je devais avoir 14-15 ans.
Attaqué par la sèche et puis passé à l'électrique ou tout de suite à l'électrique?
Moi j'ai commencé quand j'étais plus jeune, donc en classique. Classique, sèche, voilà, forcément. Ensuite, forcément, guitare électrique. Quand j'ai repris, c'était surtout guitare électrique. Après, guitare électrique, guitare sèche, au final. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Moi, je conseillerais, c'est toujours bien de commencer par la sèche parce que ça tout de suite, ça met nos doigts à rude épreuve et on peut jouer de tout après. Et c'est qu'un avis parce qu'il y en a qui disent que tu commences à n'importe quelle guitare, peu importe.
Et ta métallisation, c'est venu par, je sais pas.
C'est simple, en fait. Tout ça, c'est que avant tout, mon père, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Surtout mon père, moi ça vient, c'est simple, hein, mes deux plus grandes influences, c'est Led Zeppelin et Jimi Hendrix, voilà, qui m'ont été Deep Purple, voilà, ça c'est mes plus grandes influences, les originelles, on va dire. Après, il y a eu une grosse époque avec le néo-metal début des années 2000. Mon frère a commencé à écouter, Korn, Slipknot, Linkin Park, et donc voilà, c'est des groupes qui, peut-être non Slipknot, mais surtout Korn et Linkin Park, que j'ai beaucoup écouté, ou Baston, ce genre de choses, donc entre 2000 et 2005. Après, forcément, je me suis mis à la guitare et j'ai commencé à découvrir des groupes comme Dream Theater et The Prison Blast, je crois que ça s'appelle le titre, où John Petrucci fait un solo de guitare incroyable, hyper épique, très rapide, et ça m'a donné aussi, ça m'a poussé dans cette idée que je voulais faire de la guitare. Ça a été un élément important pour moi.
Quand on a commandé John Petrucci, il y a du taf derrière.
En même temps, après, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé apprendre des solos, je fais des solos moi-même, mais la technique guitaristique n'est plus quelque chose de primordial pour moi. Avant tout, ce qui m'intéresse, c'est la composition, la musicalité. Si un solo peut agrémenter musicalement le plus possible une chanson, tant mieux, je le fais. Si je n'ai pas d'idée, je ne vais pas rajouter de la technique pour rien, ça ne m'intéresse pas. Voilà, maintenant, au départ, quand on commence la musique, on se dit ouais, je vais faire du swing, je vais faire ci, je vais faire ça. Au final, on finit avec l'expérience par épurer son jeu et vouloir favoriser la musique.
En 2014, tu tournais déjà autour du groupe ou on a dû te chercher? Comment c'était?
Bruno, donc Bruce, c'est mon cousin. Du coup, moi, je les suivais déjà un petit peu avant, avec, disons, pas un énorme intérêt parce que j'étais pas forcément un ultra fan dans le sens où moi j'étais plus metal, eux ils étaient plus rock. Et du coup, quand ils m'ont expliqué, enfin voilà, quand ils cherchaient quelqu'un, petite anecdote, en fait, pendant qu'ils enregistraient Pandemia, un jour, je suis venu à leur session d'enregistrement et Julien venait de s'acheter un Engel Powerball ou Fireball, je ne sais plus. J'ai demandé à l'essayer. Et ils ont aimé mon jeu. Ils ont aimé mon jeu de guitare qui était plus métal et tout ça. C'est pour ça que ça leur est resté dans la tête et qu'après coup, ils m'ont demandé, avec les changements de line-up, si je pouvais venir dans le groupe. Ils m'ont expliqué qu'ils voulaient évoluer vers une musique un peu plus métal, un peu plus dure. Ça m'a tout de suite séduit. Et moi, comme je faisais beaucoup plus de métal avant, c'est comme ça que ça s'est fait.
Au fil des étiquettes, on parle de zombie rock, on parle de plusieurs noms. Et finalement, est-ce que si on ne reviendrait pas un peu au classique, on voit plus à l'instructeur Ghost, un truc shock rock Alors, rentrer dans cette,
exactement. Dans le thématiquement parlant et stylistiquement parlant, on pourrait dire ça. Une nuance, je dirais que au niveau de la batterie et de la guitare, on joue sur cette corde la plupart du temps maintenant, ou en drop. Alors, si tu es guitariste, pas du tout. Bon, en gros, on désaccorde un peu nos guitares plus bas pour que ça sonne un peu plus dur. Donc, je dirais que c'est ça, avec des influences un peu plus métal. Ce n'est pas un album de métal, mais avec beaucoup d'influences métal. Et shock rock aussi.
Mais si je vous dis, je ne suis pas Ghost, c'est un groupe qui plaît au sein du groupe.
Alors, moi, j'écoute Ghost, c'est un groupe qu'adore Julien, je crois. Moi, j'écoute pas, je connais pas, je pourrais pas. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de groupes genre Avatar ou genre de choses que je ne connais pas du tout. Moi, je suis un peu novice dans cet univers shock rock et tout ça. Donc, j'apporte en fait avec une sorte de candeur ma patte métal dans cet univers et c'est ce qui forme ma goyon, je pense.
Oui, Avatar, soit vous en piquez, soit vous devrez piquer l'espèce de tenue un peu style cirque, là, Monsieur Loyal.
Ce
cirque dérangeant.
Bien sûr, c'est un peu ça. C'est un peu le but, c'est comme ce chapiteau, c'est de rentrer dans un univers un peu à la fois creepy, pathétique et un peu dérangeant et paradoxalement très grandiloquent.
Donc finalement, on regarde le disco, donc comme tu disais, toi tu n'as pas participé, mais indirectement, donc 2012 Pandemia, puis il y a une grande révolution dans le groupe, et puis on voit coup pour coup en 2014-2016, vous sortez Z et Z.
Ouais, c'est ça.
L'idée c'était de dire, on est en train d'évoluer, on est en train de muter, entre guillemets, il faut qu'on se rappelle aussi à notre public, et donc on sort 2 EP. Quelle était votre démarche? Pourquoi 2 EP, pas un album en 2015 au milieu?
Ouais. Parce que à cette époque-là, on faisait quand même pas mal de live après Z. On a commencé à refaire pas mal de live et que le dessin d'un nouvel album n'était pas encore fait, en fait, tout simplement. Et que on avait.
Mais est-ce que vous avez effectivement pas avoir votre identité, une nouvelle identité encore?
En fait, je pense qu'à l'époque, quand on a sorti Z, on a fait ça rapidement parce que je venais d'intégrer le groupe, donc il fallait proposer du contenu. Or, on n'avait pas en chanson, on en avait 5. On a sorti un EP. On a vu ce que ça a donné. Pareil, il faut savoir que c'est pas notre métier. On a des métiers, donc des emplois du temps à respecter. Et on a fait ces 2 EP de manière un petit peu rapide, comme ça, on peut sortir du contenu pour les gens. Au final, le but n'étant pas de faire plus d'argent ou quoi que ce soit, parce que c'est 5€, 0€, c'est pas le principe. Le principe, c'était vraiment, on sort du contenu quand on peut en sortir. Pour après il y a Creepshow et ça c'est encore différent parce que on s'est dit on veut faire un bel album.
En tout cas vous passez de 5 titres à un double.
Exactement. Et parce qu'en fait pourquoi on fait ça? Parce que à la genèse de cet album on s'est dit on veut quelque chose de plus professionnel, de plus travaillé, on va prendre notre temps, chose qu'on a faite. Le processus de l'album a pris 1 an et demi à peu près. Et on a commencé à y penser 2 ans. Enfin, Voilà, en gros, 2 ans, on y pense, et 1 an et demi pour le faire. Pourquoi 1 an et demi? Parce que les processus de composition, et on voulait faire ça bien, tout simplement. Et après, on s'est précipité pour enregistrer, pour envoyer au mastering, parce qu'on avait une deadline. Mais le but, en fait, c'est que on s'est donné du temps pour faire ces 11 titres, plus le CD bonus, en fait.
Je suis surpris, juste pour la petite anecdote, tu parles de deadline, vous êtes en autopromo, c'est quoi la deadline?
Ouais, autopromo...
Non, c'est vous qui vous éditez, non? On dit quand il n'y a pas de maison, dans la maison 10, c'est quoi la deadline?
Bah oui, mais la deadline, on l'a... Non, pas du tout. En fait, la deadline, on est obligé de la respecter, déjà parce qu'on a fait un crowdfunding.
Ça, ok.
Voilà, donc forcément, pour un crowdfunding, les gens nous confient leur argent.
Bah, ils nous préachètent des trucs, ouais.
Exactement, mais ils nous préachètent nos choses, mais ils financent aussi quand même la production de l'album, c'est-à-dire le mastering, le pressage et tout ça.
Parce que ça n'empêche pas des mecs de dire on veut le faire en 2 ans, et puis on va le faire en 4.
Et ben non, bah oui, mais non, parce qu'en fait on veut pas jouer avec ça déjà. Et puis pour finir quelque chose, au bout d'un moment, il faut une deadline. Et nous, on s'est imposé une deadline, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. On s'est dit, on fait cette deadline, on respecte les gens et en même temps, on respecte notre travail parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Si on n'a pas de deadline avec nos emplois du temps, sincèrement, ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Certes, on s'est mis dans une zone un peu stressante parce qu'il fallait qu'on envoie. Ah oui, une autre chose aussi. On a en fait faire le mastering par Tony Lindgren en Suède, mais lui, il n'a pas tout le temps du monde. Il a tout un calendrier sur une année à prévoir. Il nous a dit, ça, je peux ça, soit ça ici, soit fin d'année. Donc on a
du monde là, quoi.
C'est ça, exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, ça nous aide à prévoir une deadline, à lui envoyer le mix pour qu'il puisse masteriser. Donc voilà, et aussi, comme on dit, le plus gros argument, c'est, au-delà du master, c'est il faut une deadline pour que le travail soit fait. Parce que sinon, avec la procrastination et nos emplois du temps qui diffèrent, ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps.
D'accord. Ce crowdfunding, c'était prévu dès le début. Alors, j'ai vu que vous aviez des paliers à 8 000, c'était le minimum de base, et puis ça serait à 20 000, et ce qui a permis de donner ça,
c'est le sujet pour moi. Exactement, ouais. Le crowdfunding...
C'est-à-dire que c'est toujours... On se pose toujours la question, enfin nous, notre point de vue sur les médias, c'est de dire, est-ce que c'est une stratégie qui n'est pas bête marketing pour essayer d'intégrer les gens dans le projet? Ou c'est une nécessité financière pure de dire sinon c'est pas clair parce que c'est pas financé, parce qu'on bosse de notre côté mais on n'a pas 4 000 qui a tout dans le jeu.
Très concrètement, nous par exemple du crowdfunding, on touche rien, tout a été fait pour le pressage, le mastering, l'illustration.
Et d'ailleurs j'ai détaillé tous les produits coup de coup pour dire c'est pas on utilise en fait 10 et on garde 10 quoi.
Ah non, pas du tout.
C'est pour ça que c'est important que vous précisiez bien quels sont les postes de
jeu. Et puis ils sont vérifiables. Moi je m'en suis pas occupé, c'est surtout Julien qui est
1000 euros pour sortir un double de cette qualité là, c'est pas choquant quoi.
Non, moi je dois avouer que je découvre. Je ne savais pas quel était le budget pour ça. Moi j'ai vu avec le crowdfunding, tout a été vraiment hyper bien calculé, tout ça. Franchement, ça nous a permis aussi de faire le showcase aux zèbres. Cet argent a servi à ça pour pouvoir présenter. Voilà, donc on a vraiment. Exactement, et en plus de ça, il faut savoir qu'on est une association. Donc quoi qu'il arrive, à la fin, il faut qu'on arrive à zéro. Donc le but n'étant pas de nous rémunérer, c'est le but étant de faire acheter du marchandise. Exactement. Donc c'est vraiment de la pure autoproduction. Le crowdfunding a servi non seulement à impliquer les gens, mais réellement à produire tout ça, parce que nous, on n'avait pas les moyens de produire quelque chose de cette qualité-là. On avait peut-être les moyens de produire quelque chose, mais de cette qualité-là, non. Un vinyle, ça, par exemple.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'était un des objectifs les plus hauts.
Ah oui, c'était... Exactement, c'était ça.
C'est-à-dire, c'est un truc, mais c'est un luxe qu'on propose aux gens, c'est un bel objet, machin.
Ça, c'est clairement...
Après, ça coûte une blinde, mais
oui. Et puis même, la preuve, c'est que même si on voulait faire un vinyle, un double vinyle, Parce que en fait, vu qu'on a trop de chansons, on a 11 chansons, voilà, regarde, là en tout, on a 5 et 4, il n'y a que 9 titres. Il y a déjà 11 titres sur le premier CD. Or, il nous aurait fallu un double vinyle et double prix, parce que ça coûte vraiment très cher à faire. On aurait dû demander déjà encore plus, mais on n'a pas voulu. Donc on l'a fait plus pour la beauté du geste.
Pour Magoyon, à partir de la version donc, de la V2 de 2014, finalement c'est quoi le processus typique de création d'un titre, d'une chanson aussi? L'un de vous avec squelette, une idée, vous greffez dessus, l'un arrive avec un truc qui a bien chiadé, puis les autres.
Alors sincèrement c'est variable. Dans un premier temps, quand on a fait Z, moi j'ai découvert la composition en groupe, je faisais surtout tout seul avant, et j'ai remarqué qu'en fait le processus avant c'était Julien se ramène avec son texte, une idée, un thème, et nous on se cale dessus. Ça amenait beaucoup de difficultés.
On se cale dessus avec en diamant,
pas en diamant, vraiment, parce qu'on n'est pas forcément, on l'a déjà fait, mais on n'est pas un groupe de jammeurs. On est vraiment un groupe de compositeurs, j'ai envie de dire.
Moi, c'est que
exactement. Donc moi, je... Comment dire ? En fait, dans ce processus qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de coller, de trouver. Soit j'avais des riffs qui pouvaient correspondre à ce que écrivait Julien, soit Arnaud avait des compositions orchestrales qui pouvaient correspondre à un thème prédéfini par Julien. Ça, c'était notre première manière de composer ensemble. Après, pour Creepshow, on a demandé à Julien s'il pouvait s'adapter à nous et non l'inverse. C'est-à-dire que...
d'abord et ensuite par...
Voilà. Pour nous, non pas parce qu'on voulait faire tout comme ça, mais pour nous donner un peu plus de liberté, et du coup plus de liberté, plus de possibilités en termes de composition. C'est ce qu'on a fait. Et en fait, il se trouve que, on va dire que... On a sur ce par exemple si je dis pas de bêtises, par exemple Syndrome, le thème principal qui a été de guitare qui a été composé par Arnaud existe depuis 2011. Donc c'est quelque chose qu'on a ressorti de 2011 et qu'on a dit maintenant ça on va en faire quelque chose et tu vas poser un thème et une voix dessus et une ligne vocale.
Ça veut dire que vous avez recréé écouté des vieux trucs ou du stock que vous aviez
bien sûr,
et on dit ah oui tiens là ça me tourne plus, ça m'évoque quelque chose ou...
Exactement. Alors par exemple pour être plus simple, Chapiteau, je me souviens plus exactement d'où ça vient. C'était quelque chose d'assez qui date au moins le chapiteau de la suite de Pandemia. Donc moi je n'étais pas là. Donc le riff de début, ça date déjà post-pandémia. Moi je suis arrivé, j'ai rajouté le riff de guitare. Tout ce qui est guitare, disons, j'ai pas mal rajouté. Le refrain c'était Arnaud. Après Vegas, par exemple Vegas, ça date de 2014. Vegas en fait ça a été très fluide dans la composition, c'est-à-dire ouais on veut un truc style cabaret, bam j'ai une idée, j'ai composé un riff et après ça a été très fluide. Arnaud a rajouté tout de suite les cuivres et tout ça. Enfin, une manière de composer assez fluide. Et un autre exemple totalement différent, Le Jour des Vivants, musique un peu hispanisante et tout ça, c'est en fait on sortait avec Julien du film de Disney Coco sur la journée des morts au Mexique. Moi je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse un truc comme ça, ça correspond totalement à notre image. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Le Jour des Vivants. On n'arrivait pas, ça, alors, entre l'idée et l'exécution les premières idées, il s'est passé du temps. Comme j'étais très attaché à ça, j'ai commencé à travailler de chez moi à une première ligne de guitare et tout ça. Et j'ai composé la plupart des riffs. Et après, ça leur a plu, on a tout modelé et voilà. Donc il y a vraiment des manières totalement différentes de composer. Mais par exemple, le Jour des Vivants, c'est pas du tout quelque chose qui était préexistant. D'accord. C'est quelque chose qu'on a trouvé sur le moment. Creepshow, c'est pareil. Creepshow, si c'est quelque chose qui existait déjà, pour ma part, qui existait depuis 2-3 ans, et un riff à moi que j'ai recyclé dans Creepshow, et Arnaud, qui avait eu une idée d'arpège de piano, qui l'a rajouté en intro. Donc il y a vraiment, et par exemple les Fossoyeurs, voilà, première répète que je fais avec eux, premier jam que je fais avec eux, je sors ce riff, et on est en 2014, on le sort en 2019. Voilà, c'est vraiment un mélange de nouvelles idées et en même temps d'idées qu'on avait déjà enregistrées, mises de côté. On s'est dit qu'on les réutilise, elles valent le coup, on va les réutiliser.
Et donc, comme tout beaucoup de guitaristes, t'as plein d'idées, plein de machins dans ton téléphone, et puis tu enregistres à tout moment, et puis à un moment ça sort pas.
Exactement, là c'est mon nouveau téléphone, donc, du coup il n'y en a pas tant que ça. Mais dans mon ancien téléphone, c'est la caverne d'Alibaba. Alors après, ce que je fais, c'est qu'en général, je les réécoute et je les supprime au
bout d'un moment. Oui, voilà. Tu prends un peu de recul, tu dis oui,
exactement.
Oui,
exactement. C'est comme ça que ça marche.
Le monde de votre spécialité aussi, c'est toujours resté en chant français.
Ouais.
Tu n'as pas eu la volonté sur quelque chose d'essayer de chanter un peu?
Non, tout simplement. Et là, je parle sous le contrôle de Julien, même s'il n'est pas là. En fait, ça n'a jamais été dans son réflexe. Ça a toujours été un réflexe naturel pour lui de raconter ses histoires en français, donc par conséquent de chanter en français. Et je dois avouer, aujourd'hui, je m'imagine mal changer. C'est vrai que ça, pour pas mal de gens, c'est une barrière, le chant en français. Mais on a décidé de l'assumer jusqu'au bout. Voilà, et puis non, parce qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Il y a une réelle scène française, hein, il y a quand même des groupes comme Ultravomi, j'en ai pas forcément. Avant il y avait Acné, je me rappelle, dans le néo-métal.
Oui, pour certains fans d'être l'étranger, le français a un charme.
Exactement. Et bien c'est comme nous, où on parfois. Exactement. Ou Rammstein en allemand. Et j'imagine, moi par exemple, j'ai toujours écouté en anglais sans des fois rien comprendre du tout. J'imagine qu'il est possible pour un étranger d'écouter du français sans rien comprendre et pour adorer la musique. En tout cas, c'est ce que nous a fait comme retour Tony Ingren, qui, malgré le français et le fait qu'il ne comprenne rien, trouvait qu'il se passait quelque chose. Donc déjà, nous notre contrat, en tout cas notre ambition, était presque appliquée.
Alors, tu m'offres la transition. Donc, vous avez bossé, effectivement, comme tu disais, avec Tony Ingred, qui travaille donc au Fascination Street.
Ouais.
Lui, c'était un objectif clair, ou vous avez fait une liste de mecs qui vous voulez avec travailler je dis, j'envoie un mail et puis je vois si ça...
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un objectif clair. Moi, j'ai pas été dans ce choix en particulier. C'est surtout Arnaud et Julien qui ont été dans ce choix. Pourquoi? Parce qu'il a mixé du Opès, il a mixé du Nécrous. C'est pas des groupes que j'écoute, il a mixé du... comment il s'appelle? Merde. Il est chaud, il joue tout seul, il a un bug, voilà, exactement, du temps de scène. Donc, c'était le choix principal d'Arnaud et de...
Qui se faisait entre guillemets un kiff en disant, c'est un mec qu'on trouve super dans le son qu'il a à sortir, qui va s'occuper de nous, pour essayer de nous monter un niveau...
Exactement.
Et alors là, toujours pour un peu, parce que ce matin, c'est un peu les coulisses, donc vous envoyez vos fichiers... Et puis vous avez il vous fait un premier titre, et puis après vous jugez oui, non, tu me l'orientes comme ça.
Exactement.
C'est un mec qui peut dire t'es gentil, mais si ça me plaît pas, tu peux l'orienter comme ça.
Absolument.
Ouais.
Bah oui, parce qu'à partir du moment où on paye et on veut un résultat qui nous corresponde,
ouais, mais bon, t'as un petit, sans être représentatif, un petit groupe et un mec qui est un peu connu, t'as envie de dire de faire tout ça, quoi.
Oui, mais il faut que lui, en tant que professionnel, il veut qu'on soit content aussi.
Il veut bien.
Exactement, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, les premiers résultats qu'il nous a envoyés, en fait, étaient convaincants. Là n'est pas le souci. Qu'est-ce qu'on a demandé? Juste des réajustements. Donc en fait, ça s'est fait de manière totalement... Et c'était du stem mastering, donc c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé qu'un simple mastering.
Et il les a traités dans l'ordre? D'abord, il a travaillé sur le chapiteau des...
Alors, je ne pourrais pas te dire.
Ça,
je pourrais pas te dire, parce que j'ai écouté un mastering de tout l'album, il me semble. Le premier mastering, c'était à peu près tout l'album, je crois. Je me demande si, à mon avis, il n'aurait pas masterisé plus ou moins 2-3 titres, répercuté sous ses presets de mastering sur les autres, et après dit voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui convient? Je saurais pas dire, mais en tout cas, il me semble avoir bien.
Et vous, de votre côté, vous arrivez à écouter votre travail, donc votre. Vous avez sorti de votre rythme,
ouais.
Avec assez de recul, sans ne voir que des défauts, ou, tu vois, vous arrivez à prendre du recul sur ce travail-là, à le juger de façon quasiment extérieure. Le mec vous envoie un truc, donc il va dire, à moins qu'il soit complètement à côté de la plaque, c'est déjà sinon pas mal, comme tu l'as dit, justement. mais à quel moment on se dit bon bah c'est un peu on fait ces petits ajustements là et puis entre guillemets ça suffit, à quel moment tu t'arrêtes? Sinon tu peux faire pendant des mois.
Bien sûr, en fait il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà le mix qui est fait par Arnaud donne une direction qu'il est difficile de changer au mastering. Donc après pour moi, ce qui nous a, en fait en donnant ce mix-là, on lui donne des informations qu'il comprend et qu'il va essayer de perfectionner. Donc à partir de ce moment-là, c'était relativement fluide. Hein. On a fait des retours bien sûr. Mais encore une fois, c'était que des ajustements.
Pour moi, la vie au QSD, ce genre de choses, ça dure combien de temps? Sur quelle période de temps? Quelques semaines? Quelques jours?
Deux semaines. Je crois que ça a duré 2 semaines.
Et vous étiez posé la question de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une étape de plus et qu'un le mec, lui ou un autre, fasse le mix? Vous avez besoin d'avoir encore ce contrôle-là sur vos...
C'est intéressant.
C'est pas une contrainte financière pure aussi, hein. C'est pas logique.
Déjà forcément, il y avait cette contrainte financière et aussi, je pense que c'est important parce que comme on dit des fois sur d'autres interviews, on est un peu contre le fric. Voilà. Arnaud est très bon dans le mix et donc c'était très important pour nous et pour lui qu'il fasse le mix aussi. On gère beaucoup de choses. Pour l'instant, il délègue peu. Même par exemple pour le groupe, moi je suis chef opérateur de formation, du coup pour le groupe j'ai fait pour notre premier clip Zone Zero, j'ai fait le découpage, je dirais pas la réalisation, mais en tout cas le découpage et la lumière et le cadrage. Donc on est, tout ce qui est illustration, mis à part Arsenic et Bubblegum, c'est tout Bruno et Julien qui ont fait tout. En fait on fait tout nous-mêmes. Donc on a quand même encore cette idée de contrôle fric et de tout faire nous-mêmes. Donc le mix, en fait, c'était évident au départ, comme c'est Arnaud qui a toujours tout mixé, ça fait partie aussi de son évolution professionnelle, en fait, lui aussi, de mixer son travail. Par contre, il ne se sentait pas de faire le mastering et on voulait vraiment atteindre un petit palier en plus de professionnalisme en envoyant justement ce mix au mastering à Tony Hinsen.
Donc tu mentionnais le visuel qui est quand même particulièrement chialé et soigné. Donc tu faisais un gros travail avec en interne chez vous, mais également Arsenic et Bout de Gomme.
Bien sûr.
Quel niveau de précision vous leur avez donné, tu vois, le pitch entre guillemets, en leur disant, bah voilà les paroles, voilà la chanson, fais-toi plaisir et puis vois ce qui sort, ou vous avez pitché très précisément ce que vous voulez? C'est vrai, bon, enfin, ils interprètent, mais...
Alors, moi, j'étais pas... Ça, c'est plutôt Julien qui s'est occupé de ça, donc à la limite, si tu le croises, ça vaudrait du coup lui poser la question. Mais de souvenir dans les discussions, je n'ai pas souvenir de
une direction. Vous avez battu pour être tel truc?
Pas du tout.
Bien sûr, vous avez une thématique générale.
Moi, quand j'ai
pas être d'avoir pas
ouvert,
utiliser des jolies couleurs.
Pas du tout. Quand j'ai découvert ça, j'ai réellement découvert le truc. Je n'ai pas souvenir d'en avoir parlé avant, ni avec le groupe.
T'as pas vu un pré-sketch, un second sketch, un...
Si,
d'accord.
Bien sûr. Il y avait des prêts, mais je ne sais pas comment ils ont été briefés. Je me demande même s'ils ont été briefés, sincèrement.
Pourquoi il y en a qui aiment bien dire, je te file la musique et les paroles, vois ce que ça
évoque. Moi, je pense que ça évoque,
et puis ils sortent mon truc.
Parce que je pense que ces gens-là, de toute façon, avaient déjà
un style. Et puis vous connaissez
un... Et puis vous nous connaissez. Julien voulait vraiment travailler avec eux. À mon avis, il leur a donné carte blanche. On a eu des tests, on a tous trouvé ça bien. Et voilà, on a eu ça et c'était encore mieux. Mm-hmm. Sincèrement, je pense qu'il y a eu carte blanche. Il faut vérifier avec Julien.
Ok, je vous pose la question. Donc, tu disais au niveau clip, donc là, tu as un intérêt un peu particulier, puisque tu mets d'autant plus la main à la carte, comme tu disais. Donc, les clips, vous avez un peu tous les genres. Alors, tu as les images live, tu as les groupes qui jouent, tu as le côté lyrics vidéo, tu as des montages dessins animés pour la reprise de Astérix. Hein. Sauf le truc, sauf un mot que j'ai rappelé, peut-être, sauf le truc scénarisé.
Zone Zero.
Tu
l'as raté. Alors c'est le premier clip qu'on a fait que j'ai justement découpé et j'ai fait la lumière dessus. Et c'était beaucoup plus scénarisé, c'était filmé. Il est disponible sur YouTube. Hein. C'est Zone Zero et c'était lors de la sortie du deuxième EP en 2016 ZZ. Et donc on a sorti ce clip là. Et donc c'est un mélange entre scénario et groupe qui joue. Voilà, tout simplement dans la salle, on avait tourné ça dans un sous-sol d'immeuble à Paris.
Vous vous en souvenez ? Pardon ? Bon souvenir ?
Très bon souvenir.
Parce que les clips, on se rend compte aussi, en voyant ça un peu des coulisses, que c'est refaire je ne sais pas combien de fois les mêmes machins, parfois dans des conditions d'humidité, machin, pas forcément super fun pendant toute une journée. Donc tu sors de là, tu es souvent caissé en deux, bon, content pour aussi le résultat bien.
Disons qu'on avait un rythme très soutenu, on commençait à tourner très tôt, on finissait relativement tard, parce qu'on avait deux jours de disponibilité du lieu. Mais on a beaucoup expérimenté, on s'est fait plaisir. Le clip, bien sûr qu'il a des défauts, mais il faut prendre en compte qu'on était peut-être un peu ambitieux aussi. Et qu'on n'avait pas... Moi, j'avais par exemple, je voulais quelque chose de sombre, et malheureusement, c'était que des murs blancs. Donc j'étais obligé de spotter le plus possible les lumières et tout ça pour qu'on ait des semblants de pénombre, mais c'était pas simple du tout.
Sur les ombres, pas sur la couleur pure.
Exactement. Ça reste un bon souvenir, une belle expérience. Pour autant, peut-être qu'il nous a manqué quelques moyens en fait pour qu'on soit réellement content au maximum de ce clip. Parce que c'est vrai qu'avec le recul, je le revois, je me dis c'est pas si mal que ça, mais je sais qu'en tête j'aurais voulu faire des choses encore autrement.
Et donc pour terminer, qu'est-ce qui est prévu dans les semaines, mois qui viennent pour le groupe et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Bah, là, on a un concert le 19 octobre à Issy les Moulineaux à l'Espace Icare. On a un concert à Nantes le week-end du 19, mais je ne sais plus si c'est 19 ou 20, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche.
Pour faire Facebook.
Pardon ?
Pour faire Facebook.
Oui, voilà, il y aura plus de détails sur Facebook, forcément. Et après, on a des dates, je crois, à Toulouse, Lyon, Lille, qui vont tomber, je ne sais plus exactement. On va commencer à plancher sur un troisième album parce qu'on aimerait bien, on va pas attendre autant d'années, je pense, entre Pandemia et tout chaud.
Il y a de la matière déjà qui est.
J'ai commencé de mon côté, j'ai des petites idées, les deux riffs.
Il n'y a pas de titre finalisé, il n'y a pas du tout.
Pour l'instant, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? J'ai envie de dire que le groupe évolue encore en notoriété et que puisse peut-être faire des plus grosses scènes.
Vous avez commencé à poser des jalons pour essayer de voir les festivals d'été prochains ou...
Ah, sûrement, oui.
D'accord. Sûrement. Parfait, un grand merci.
Merci à toi.
Merci.
Très bonne année.